à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Bah, arrêtez ça tout de suite!
Oh, c'est trop bien, une fois que c'est pas moi qui me fais exploser avec cette chose. Bon, je devrais peut-être pas non plus traîner là trop longtemps. Allumage moteur et zou! J'ai l'impression que cette histoire de Céline Dion est plus importante que je ne l'avais imaginé au départ. Ah, bon, on va devoir se poser là et attendre un peu que ça passe. Bah oui mince, vous êtes toujours là. Bon, puisque je vous ai embarqué dans cette escapade, jetons un œil dehors pour savoir où nous nous trouvons. Oh, vous n'allez pas être trop dépaysé. Rien de tel qu'un endroit tout à fait commun pour se cacher. Personne ne songerait à chercher une petite capsule ici, non? Mais où sommes-nous, me direz-vous? Eh bien, nous sommes à Rome, la ville éternelle, dans la péninsule italienne, mais pas vraiment l'Italie telle que nous connaissons, puisque nous sommes à la toute fin du XVIe siècle, en 1600, le 17 février exactement. La ville est alors la capitale des États pontificaux, ancêtre d'une sorte de Vatican gonflé aux hormones. Mais nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, ni pour goûter à la délicieuse gastronomie locale. Non. Nous sommes ici pour prendre acte du supplice d'un esprit trop libre pour son temps, d'un homme dont les actes ont été bridés par des règles édictées il y a bien trop longtemps, mais qui par la pensée a su s'en échapper pendant un petit moment. Cet homme, c'est Giordano Bruno, et il vient d'être brûlé vif sur la place Campo dei Fiori dans le cœur de Rome. Son crime, une abomination pour la pensée chrétienne de l'époque qui lui ont valu d'être accusé d'athéisme et d'hérésie par l'Inquisition. Rendez-vous à la case combustion, ne passez pas par la case réincarnation, ne recevez pas la vie éternelle. Mais reprenons les choses un peu plus tôt. Bruno était un frère dominicain, un philosophe. Après une éducation suivant les valeurs pieuses de son Italie natale, il est d'abord un religieux modèle, avant de peu à peu diverger du carcan théologique de son institution. Il se met à lire, beaucoup lire. Et surtout, il lit des livres proscrits par l'Église, des écrits divergents qui permettent à Bruno de synthétiser sa pensée sous la forme d'une nouvelle doctrine personnelle. Selon lui, première chose, Copernic a raison. Nicolas Copernic est un scientifique polonais, légèrement antérieur à Bruno dans le temps. Il est à l'origine de la révolution copernicienne qui replace le Soleil au centre de l'univers et relègue la Terre au rang de simple planète. Copernic démontre par les mathématiques la viabilité de son système qui l'imposera progressivement dans les esprits. Pour Copernic, la Terre tourne autour du Soleil en une année, sur elle-même en une journée, et les étoiles dans le ciel sont placées à des distances très grandes de la Terre. Pour Bruno, ce postulat est bien, mais pas suffisant, et il a l'intuition que son Dieu, qui est infini, ne peut pas être à l'origine d'un univers fini, c'est bien trop étriqué et trop réducteur. Non, il doit exister d'autres mondes, d'autres terres, d'autres planètes qui tournent autour d'autres soleils. Une infinité d'étoiles qui pourraient peut-être héberger d'autres hommes sur d'autres terres. Ces idées, pourtant bienveillantes envers la religion et le dieu qu'elles vénèrent, ne plaisent pas vraiment à l'Église. Elles remettent en cause les textes sacrés et donc son autorité. Bruno fuit donc l'Italie et parcourt les routes d'Europe à l'aube de la Renaissance pour trouver des soutiens. Mais il ne trouve le plus souvent que portes closes et accusations d'hérésie. Il est excommunié tour à tour des églises catholiques, calvinistes et luthériennes. Lorsqu'il retourne en Italie, il ne trouve pour accueil chaleureux que celui du bûcher en 1600. Bruno n'était pas un scientifique et n'appuyait pas ses théories sur des logiques mathématiques. Ses croyances étaient intimement liées à sa foi chrétienne. il n'en reste pas moins que Bruno, élevé au rang de martyr de la libre pensée, inspirera des scientifiques bien plus connus qui à leur tour contribueront à forger la vision de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Allez, quittons le 16e siècle pour l'époque contemporaine. Nous sommes le 6 octobre 1995, Florence, Italie. Devant une trentaine de journalistes et plus de 300 astronomes, deux chercheurs suisses s'apprêtent à faire une annonce. Depuis plusieurs années maintenant, ils traquent une chimère, un objet qui prête parfois aux moqueries comme on regarde parfois les chercheurs d'OVNI. Mais contrairement aux fantasques ufologues aux idées parfois un peu perchées, eux sont perchés sur un télescope, celui de l'Observatoire de Haute-Provence. Du haut de l'instrument datant des années 40, mais équipé d'un outil spécialement créé pour l'occasion, il traque, étudie sans relâche des dizaines d'étoiles dans l'espoir de découvrir le Graal. Auparavant, nombreux sont ceux à avoir clamé découvrir un tel objet, puis s'être rétracté. En effet, depuis le début du XXe siècle, les progrès techniques, scientifiques et l'ouverture considérable des mœurs depuis Giordano Bruno ont permis à des scientifiques de renom comme Edwin Hubble de postuler que si les autres étoiles dans le ciel étaient semblables à notre Soleil, au moins en partie, alors il était logique de penser que ces mêmes étoiles possèdent eux aussi leur cortège de planètes. Mais à l'époque, personne n'a réussi à en fournir la preuve formelle. Non, c'est aujourd'hui et seulement aujourd'hui, ce 6 octobre 1995, que l'équipe dirigée par les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz révèle un secret qu'ils gardent depuis bientôt maintenant un an. Face à leurs collègues et au monde, ils donnent la preuve qui va faire l'effet d'une bombe. Ils sont les premiers à découvrir avec certitude un objet de masse planétaire à l'extérieur du système solaire. Une planète qui ne tourne pas autour de notre Soleil, une exoplanète. Ils viennent de découvrir 51 Pegasi b, la première exoplanète jamais découverte par l'humanité. Bienvenue Spoutnitérien, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, on met le cap vers le cosmos, on met le cap vers les étoiles, on met le cap vers d'autres mondes, on met le cap vers les exoplanètes. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage la capsule spatiale de Radio U. Sa mission de 20 minutes, explorer des sondes étranges, raconter leur mission et au mépris du danger, percer les mystères inconnus. Oula, je m'emballe. Faut dire qu'on commence un peu à s'engourdir à rester sur Terre. Oh, ça fait quand même un moment qu'on est là, les patrouilles ont dû partir. Bon, allez, allons faire un tour en orbite et dans le temps, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon, 51 Pegasi b lance définitivement la chasse aux exoplanètes, mais pose aussi de nombreuses questions. 51 Pegasi b est une planète, oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est une grosse planète, de la taille de Jupiter. Jusqu'ici, tout va bien. Là où ça devient plus étrange, c'est l'orbite sur laquelle tourne cette planète autour de son étoile. La planète met en effet 4 jours seulement à en faire le tour, là où Jupiter met 12 ans à faire le tour du Soleil. Pour réaliser cette performance, carrément un sprint, 51 Pegasi b est plus proche de son étoile que ne l'est Mercure du Soleil. Et ça, c'est quelque chose que l'on pensait impossible avant sa découverte. En effet, il n'existe dans notre système solaire aucune planète de la sorte, et les modèles scientifiques utilisés pour décrire la formation du système solaire affirmaient alors que les planètes massives ne pouvaient se former que loin de leur étoile. Quelque chose échappe donc au modèle standard, mais quoi ? Difficile de faire des conclusions avec une seule représentante d'un nouveau genre, les Jupiter chauds, en référence à leur distance à l'étoile et à leur température, plus de 1000 degrés. Et là on n'y coupe pas, hein, car le meilleur moyen d'avoir une réponse est encore d'aller sur place, mais là, ça va être très complexe. 51 Pegasi b est situé à 51 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde, il faut 51 ans pour y aller. À raison de 130 km par heure, cela nous prendrait la bagatelle de 423 milliards d'années, soit plus de temps que l'âge actuel de l'univers. Bref, on n'est pas rendu. Non, ce qu'il nous faut, c'est un observatoire bien équipé, avec un ciel dégagé et sans pollution lumineuse de villes alentours. On peut en construire un très gros, dans un lieu vierge et dégagé, ou en envoyer un dans l'espace. Envoyer un chasseur de planètes dans l'espace, c'est l'idée à l'origine de l'observatoire spatial Kepler. Alors, très chers spoutnitériens, préparez-vous à découvrir des planètes par milliers en apesanteur. À la recherche de la spoutnitaire, partons ensemble à la découverte de Kepler, le plus foisonnant des chasseurs de monde. Bon, revenons quelques instants dans le temps, car avant d'être un télescope, Kepler est avant tout le nom d'un astronome, Johannes Kepler, un Allemand né en 1571 dans le Saint-Empire romain. Il est principalement connu pour avoir découvert les lois mathématiques régissant le mouvement des planètes autour du Soleil en s'appuyant sur les théories de Copernic, encore lui, et les théories de Giordano Bruno. Son nom est donc tout indiqué pour figurer sur la carrosserie du télescope dont nous parlons ici. Le télescope spatial Kepler est un beau bébé. Tenez, approchons-nous pour que vous l'observiez d'un peu plus près. C'est un télescope d'environ une tonne, qui a été lancé en 2009 par une Delta 2 depuis Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. Il est placé au point de Lagrange L2, du système Terre-Soleil. Cela veut dire qu'il est sur la même orbite que la Terre, mais un peu en retard par rapport à cette dernière. Globalement, il se présente comme un cylindre, coupé en biais au niveau de son ouverture, avec des panneaux solaires sur les flancs et une base octogonale contenant des éléments de propulsion et d'électronique. Bon, rien d'impressionnant à première vue pour un télescope spatial moderne. En revanche, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la façon dont fonctionne l'engin. Détecter une exoplanète est une chose, choisir la bonne méthode en est une autre. Car à première vue, on serait tenté de penser qu'il suffit de regarder les clichés pris par le télescope et de rechercher un point noir, voire un disque plus ou moins gros correspondant à une planète. Après tout, c'est comme ça que l'on fait quand on regarde les planètes de notre système solaire au travers de l'oculaire d'un télescope amateur. Mais là, c'est plus complexe. On l'a dit plus haut, ces exoplanètes sont loin, très loin. Il y a évidemment des étoiles et donc potentiellement des exoplanètes plus proches de nous, mais les distances restent considérables. L'étoile la plus proche de nous, si on ne compte évidemment pas le Soleil, est Proxima du Centaure, située à 4,3 années-lumière de la Terre. Impossible donc à cette distance d'observer par exemple directement des nuages, des anneaux ou la surface de ces mondes. Non, les scientifiques ont mis au point différentes méthodes permettant de mettre à jour différents types d'exoplanètes en fonction par exemple de leur taille, masse ou de leur distance à l'étoile. 51 Pegasi B a par exemple été découverte avec la méthode dite des vitesses radiales. Pour faire simple, disons que lorsqu'une planète tourne autour de son étoile, elle modifie un tout petit peu sa vitesse. En étudiant ces variations de vitesse, on peut en déduire ou non la présence d'une planète. Il existe en tout 5 méthodes principales pour détecter les exoplanètes. La méthode des vitesses radiales est la seconde méthode la plus efficace en termes d'exoplanètes découvertes. La plus efficace est la méthode des transits. En effet, en 2018, sur 3700 exoplanètes découvertes, 2915 l'étaient avec la méthode des transits. L'observatoire spatial Kepler en était l'un des principaux contributeurs, puisque c'est sur ce type de méthode qu'il fonctionne. Mais arrêtons-nous un moment pour savoir comment ça marche. Comment découvre-t-on des nouveaux mondes avec des transits ? On l'expliquait dans l'épisode précédent, un transit fonctionne sur le même principe qu'une éclipse. En passant devant son étoile, une planète va bloquer une partie de la lumière de cette dernière. Pour Vénus, cela se soldait par l'apparition d'un petit disque noir sur le disque solaire. Pour les étoiles plus lointaines, on observe plus simplement une baisse de leur luminosité. En observant ces fluctuations de luminosité et leur périodicité, on peut en déduire la présence d'une planète, le temps qu'elle met à faire le tour de son étoile, sa densité, sa masse et sa taille. Ce sont là de précieuses informations, car elles permettent entre autres de savoir si la planète découverte est une planète rocheuse ou gazeuse. Pour que la méthode fonctionne, il faut pouvoir surveiller un très grand nombre d'étoiles, et surtout observer plusieurs fois le même transit pour affirmer ou infirmer la présence d'une planète. Pardonnez-moi quelques secondes, je vais profiter qu'on soit revenu dans l'espace pour lancer un scan des environs. Si nos amis de la police stellaire sont toujours là, on devrait en être informé rapidement. Alors, replaçons l'antenne en position normale et lançons la recherche de signal de la police stellaire. Boum. Ok, bon, ça va lui prendre un moment à cette vieille carlingue pour scanner toute la zone. En attendant, revenons à nos moutons. Je disais donc qu'il fallait une méthode particulière pour détecter ces autres mondes. Mais une fois ces instruments bien rodés, Kepler en a découvert par centaines, avec une diversité faisant parfois miroir à la science-fiction. Tenez par exemple Kepler-16b. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais le nom des exoplanètes n'est pas franchement très glamour. Oubliez les noms des divinités des mythologies du passé, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus froid, mais pratique. Le nom des planètes découvertes par Kepler commence toujours par Kepler. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, il y a un numéro, ici Kepler 16, correspondant à l'étoile. On a ensuite une lettre, la B. La lettre donne la position de la planète dans le système. Kepler 16b est donc une planète tournant autour de l'étoile Kepler 16, et B signifie que c'est la planète la plus proche de son étoile. Si on appliquait cette méthodologie à notre système solaire, Mercure s'appellerait Soleil B, Vénus Soleil C, la Terre Soleil D, etc., etc. Bon, reprenons notre tour des planètes étranges avec Kepler 16b donc, une planète probablement rocheuse et désertique possédant deux soleils comme Tatooine dans Star Wars. Ou encore Kepler 22b, tenez, un monde qui pourrait être recouvert d'un océan et qui aurait peut-être inspiré la planète océan d'Interstellar. Vous en voulez encore? Eh bien en voici deux. Kepler 10b pourrait être là un monde recouvert de lave, et Kepler 10c, sa voisine cosmique, une sorte de méga-planète rocheuse surnommée la Godzilla des Terres, avec une masse 10 fois supérieure à celle de notre planète. Elle ferait passer notre petite Terre pour un vulgaire planétoïde. Imaginez donc une planète rocheuse de cette taille possède une force de gravité qui nous plaquerait au sol immédiatement et nous tuerait probablement en un rien de temps. Si une hypothétique civilisation a vu le jour sur cette planète, peut-être n'a-t-elle jamais pu aller dans l'espace tant l'effort à fournir pour aller en orbite est considérable. Kepler a découvert une diversité impressionnante de mondes et de systèmes stellaires tant ils sont différents du nôtre. Mais peut-être que le plus troublant dans l'histoire n'est pas ce qui nous ressemble le moins, mais ce qui nous ressemble le plus, tant notre imagination ne demande qu'un tour de clé dans la serrure de l'esprit pour pouvoir démarrer. Notre chasseur spatial préféré a en effet découvert au cours de ses presque 10 années de service un nombre impressionnant de planètes, de taille proche ou égale à celle de la Terre, orbitant dans la zone habitable de leur étoile. Une planète gravitant dans la zone habitable de son étoile peut espérer héberger de l'eau liquide à sa surface, condition indispensable au développement et au maintien de la vie telle que nous la connaissons. Dans la zone habitable, la planète se tient alors à bonne distance de son étoile, elle n'est alors ni trop près ni trop loin et n'a donc ni trop chaud ni trop froid, un véritable pays de boucles d'or. La présence d'eau liquide ne dépend pas uniquement de ce facteur. Mars, par exemple, se situe en bordure extérieure de la zone habitable de notre étoile et n'héberge pourtant pas ou plus d'eau liquide à sa surface. Parmi les découvertes intéressantes, il y a Kepler 186f, une planète seulement 10% plus grande que la Terre et orbitant en 135 jours autour de son étoile. Si sa période de rotation peut paraître un peu courte et donc indiquer une position proche de son étoile, c'est parce que Kepler 186f orbite autour d'une naine rouge, une étoile environ deux fois plus petite que notre Soleil, elle est donc par conséquent moins chaude et émet moins de lumière. Dans ces conditions, la zone habitable est plus proche de l'étoile et notre candidate se tient en plein dedans. On l'a vu avec Mars, zone habitable ne veut pas forcément dire zone habitée. De nombreux paramètres sont à prendre en compte, comme par exemple la présence d'un champ magnétique ou plus simplement la présence d'une atmosphère. Or, les technologies actuelles permettent difficilement de mettre à jour les atmosphères des exoplanètes. Cela pourrait changer avec l'arrivée de nouveaux instruments, plus performants, comme le télescope spatial James Webb, successeur indirect de Hubble et qui devrait être relancé dans les années qui viennent sur une orbite similaire à celle de Kepler. La mission de l'Observatoire spatial Kepler s'est terminée en 2018, après avoir observé plus de 530 000 étoiles et découvert pour le moment 2662 planètes. Pour le moment oui, car si l'Observatoire a bien terminé ses activités, la quantité de données récoltées est telle qu'elles n'ont pas encore toutes été traitées, et qu'il reste encore probablement quelques exoplanètes à trouver. Tenez, pas plus tard qu'en avril dernier, on apprenait l'existence de Kepler-1649c, une nouvelle exoplanète de la taille de la Terre dont on connaît pour le moment pas grand-chose. La recherche d'exoplanètes ne s'arrête cependant pas avec la fin de Kepler. Son successeur, l'observatoire TESS, a été lancé en 2018 et fonctionne sur le même principe. Aussi, la recherche d'exoplanètes ne repose pas uniquement sur la méthode des transits. En effet, si elle s'avère efficace pour dénicher un bon nombre de cailloux éloignés de nous, elle présente aussi quelques inconvénients. Le premier est que pour confirmer une planète via cette méthode, il faut observer au moins 3 transits, donc au moins 3 orbites de la planète autour de son étoile. On cible donc des mondes qui tournent plutôt rapidement autour de leur étoile pour maximiser les détections. On trouve donc des planètes carbonisées autour de grosses étoiles ou des planètes orbitant de petites étoiles. Ainsi, beaucoup d'exoplanètes ont été découvertes en orbite autour de naines rouges, des étoiles différentes du Soleil et plus petites. Différentes par leur éclat, plus rougeâtre que jaunâtre, mais également par leur longévité. Plus une étoile est petite, plus elle vit longtemps paradoxalement. Une planète en orbite autour d'une naine rouge est de surcroît dans sa zone habitable et donc susceptible d'être habitable plus longtemps. Rappelons en effet que notre Soleil n'est pas éternel et qu'il finira au terme de son existence par rendre la vie sur Terre impossible. La possibilité de la vie autour d'une naine rouge est cependant encore hypothétique tant les contraintes sont grandes. En effet, en orbitant plus près de leur étoile, ces planètes peuvent être verrouillées en quelque sorte et présenter toujours la même face à leur étoile. Il y aurait donc une face constamment exposée au jour et une autre constamment dans la nuit. Aussi, les naines rouges sont moins stables chimiquement que notre Soleil un peu plus volumineux et peuvent parfois produire des phénomènes chimiques irradiant durement les planètes aux alentours. L'Observatoire spatial Kepler a porté la recherche d'exoplanètes dans une nouvelle ère, en découvrant un nombre d'exoplanètes considérable en un temps relativement bref. On sait aujourd'hui qu'il existe bien plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie et probablement même dans l'univers. Cependant, si le nombre de ces nouveaux mondes découverts augmente de jour en jour, il ne faut pas oublier que les distances considérables qui nous en séparent rendent difficile leur observation et bloquent peut-être pour toujours tout espoir d'exploration. La diversité des mondes découverts met également en lumière la singularité du nôtre, particulièrement calibrée à la vie telle que nous la connaissons. Un oasis sans pareil dans l'immensité du cosmos qui restera probablement pour toujours notre meilleure chance de survie dans un univers particulièrement magnifique, mais aussi particulièrement hostile en dehors de notre frêle et fragile petit point bleu. Tiens, on dirait que le scan est terminé. Alors, regardons ce qu'il a trouvé. Rien. Nulle part. C'est bien ça. On va enfin pouvoir voguer à nouveau vers l'infini et au-delà. Oh, attendez. Il y a un signal. Faible, mais un signal. Ah, j'arrive pas à l'entendre. Il va falloir booster un peu le récepteur. Si j'éteins ça et ça, et que je mets un peu plus de jus dans le récepteur... Oh non! Oh non 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 non, encore Céline Dion! Quoi? On n'explose pas. Le décès Céline Dionner nous protège encore. Alors ça c'est vachement pratique. Ah bah c'était un bon investissement. Bon, cependant, qui peut bien diffuser en permanence sur cette fréquence discrète du Céline Dion? Mais c'est ça qui perturbe ma radio depuis le départ. Ah, il faut que je trouve d'où ça vienne et je sais qui aller voir. Mais ça va être un peu long donc je vais vous déposer là et on se retrouve le mois prochain, ok? Allez, zou, salut! Yeah. écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnitaire, toutes les émissions, avec en bonus quelques précisions. Ah!